Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Ça s'appelle Arriver à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
François Hartog.
Il est historien, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Avec lui, nous débutons une semaine imaginée autour du mot « répétition ». Aujourd'hui donc, la place de l'idée de répétition dans la pensée de l'histoire. C'est lundi, ça recommence.
Cet effort de concordance des temps, de mise en parallèle du passé et du présent sur certaines séquences de l'évolution historique est aussi intéressant pour souligner les différences que pour éclairer les ressemblances.
Kafka dit qu'écrire, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins. Les assassins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont ceux qui restent dans le rang, qui suivent le cours habituel du monde, qui répètent et recommencent la mauvaise vie telle qu'elle est. Ils assassinent quoi ? Le possible, tout ce qui pourrait commencer, rompre, changer. Kafka dit que l'acte d'écrire, c'est mettre une distance avec ce monde habituel, la distance d'un sceau, qui permette de saisir d'où on vient, d'où vient ce vieux monde des assassins. Si on ne fait que redire, recommencer, répéter, on n'en sort pas, quel intérêt. Sauter, c'est cet acte de la pensée, une rupture. Il faut se décoller. Ce sont quelques mots empruntés au psychanalyste, un très beau livre de Leslie Kaplan. Nous les prenons pour ange gardien cette semaine. Il est 16h, passé de 1 minute, saut du cœur, vous écoutez France Culture, et c'est pas la peine de crier. À 16h13, le Polaroid du jour fait apparaître des enfants danseurs vers 16h20. Entretien et premier moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot répétition. Nous discutons de la notion de répétition en histoire avec l'historien François Hartog. Vers 16h50, nous écoutons un poème de Valérie Rouzeau. Et enfin, à 17h, nous retrouvons Hervé Gardette pour le 5 à 7. Vous savez tout. À cette heure-ci, tous les lundis débute un nouveau déballage de bibliothèque. Il est en ce moment en répétition pour le Festival d'Avignon. Il est metteur en scène et comédien. C'est Yves-Noël Genot qui sort de ses rayons quelques livres lui tenant à cœur. Et pour commencer, il choisit un extrait d'un dialogue qui réunissait le psychiatre Jean Houry, disparu il y a peu, et l'auteur et psychanalyste Marie Depucé. À quelle heure passe le train ? Conversation sur la folie, on écoute.
Bon, alors, on connaît l'histoire. On sait très bien que... En fin de compte, c'est un innocent, Oedipe, un brave type. Il arrive à la porte de Thèbes, hein, et il y a une espèce d'abruti qui passe avec un chariot qui va l'écraser. Alors il lui saute dessus et il le tue. Bon, ça déblaye la route. Hein. Et puis, il arrive dans Thèbes et il fait ce qu'il faut faire pour le bien, comme il disait à l'époque, pour le service des biens, dit Lacan. C'est vrai, la meilleure façon de travailler au service des biens, hein, c'est d'avoir le pouvoir. Il ne va pas être médecin chef de Thèbes, mais enfin, il va être le roi. Donc, il se marie avec Jocaste, un roi pour qui il représente bien. Hein. Il doit avoir une reine et des enfants. C'est la norme. Donc il fait tout ça, et tout ça très bien, tout va très bien. En son âme et conscience, il n'a rien à se reprocher. Il a déblayé la route en entrant et s'est installé là pour le service des biens. On peut dire qu'il est dans une dimension tout à fait naturelle, hein, d'amour aussi. Il aime bien Jocaste. C'est une brave bonne femme. Et ses enfants, et Théocle, Polynice, Ismène, et Antigone. Et alors, je ne sais plus comment ça lui passe par la tête, cette idée, mais il se sent obligé d'aller interroger cette espèce d'imbécile de voyant, la cartomancienne du coin, Tirésias. Et l'autre, il sait tout, bien sûr, mais il dit « Mais non, ça va bien, Oedipe, c'est pas la peine, il fait beau. » Mais Oedipe, ce pauvre couillon, il insiste. C'est là qu'il se passe quelque chose. Il y a la peste. Mais enfin, il y a toujours la peste. Donc il s'acharne et va revoir ce type un peu bizarre, ce Tirésias. On sait ce qui lui est arrivé. avec ses mamelles et compagnie. Tirésias, c'est quand même un peu salaud. Il lui dit, tu as tué ton père, tu as couché avec ta mère. Œdipe n'en revient pas. Il ne savait pas. D'une naïveté incroyable, ce type. Ça le choque tellement qu'il s'arrache les yeux et les fout par terre. Il s'aveugle. Et c'est là que ça commence. C'est seulement là que va se poser la question du désir, dit Lacan. Jusque-là, il était au service des biens, tout à fait dans la norme occidentale actuelle. Tu fais ton travail, tu rentres le soir, tu ne racontes pas trop à ta bonne femme ce que tu as fait dans ta journée pour ne pas l'emmerder. Tu dis bonsoir, mes petits, et le lendemain, tu recommences. Il était très bien, Œdipe, un bon citoyen. Donc il s'aveugle, et c'est à ce moment-là, comme on dit, qu'il devient voyant, comme un psychothérapeute devrait l'être. Il s'agit non pas de voir en l'autre, c'est un piège hein, de voir en l'autre, mais de voir en soi. Voir, pas forcément au sens de savoir. Alors là, qu'est-ce qu'il fait, Œdipe? Là, bien sûr, on pourrait broder, depuis le temps qu'il y pensait, sans le savoir, à sa petite Antigone. N'empêche qu'il s'en va avec Antigone. Il fait du camping. Il part sur les routes avec elle, c'était sa préférée, quand même. Depuis le temps qu'il attendait ça. Adieu Jocaste, je pars avec Antigone. Mais tout ça jusqu'à un certain point. Arrivé dans l'autre pays, à Colonne, il dit à Antigone, « Eh bien ma petite, ce coup-ci, basta. Adieu. » Je ne sais pas s'il a dit adieu, mais « Reste là, tu ne peux plus continuer avec moi. » C'est là que le désir prend son relief, parce que le chemin qu'il va faire après, il ne peut le faire que dans la solitude absolue. Là, il n'y a plus d'Antigone qui tienne. Dans la solitude absolue jusqu'à l'énigme. Il rencontre au bout du chemin, si on peut dire, Thésée, encore un drôle de type, avant d'entrer dans le métro. Je veux dire descendre dans l'Hadès. Ils échangent quelques mots. On ne sait pas quoi, on ne saura jamais. On est trop curieux, il n'y a rien à savoir. C'est ce lieu entre l'adieu à Antigone et la rencontre avec Thésée que Lacan a appelé l'entre-deux morts. L'adieu à Antigone, c'est sa première mort, et la rencontre avec Thésée, c'est la seconde mort. Entre les deux temps, le cheminement dans la solitude, entre les deux, dans l'entre-deux morts. Le désir, ça ne commence vraiment qu'après l'aveuglement, en ce point de voyance, là où il va son chemin, comme on le dit, bon pied, bon œil. Le chemin du désir, ça devient manifeste au moment où personne ne peut plus le voir dans la solitude absolue. Une analyse, ça devrait pouvoir tracer un chemin avec des sortes de plongées au niveau de cette zone de solitude de l'entre-deux-morts. Si cette zone de solitude n'est pas explorée, si on peut dire explorée, par l'analyse, Lacan le dit, il n'y aura pas eu d'analyse. À ce régime, l'analyse s'est devenue extrêmement rare.
Yves-Noël Genot, vous lisez un extrait de « À quelle heure passe le train ?» C'est un dialogue entre Jean Houry et Marie de Pusset. Le premier est le psychiatre que l'on connaît, décédé il y a peu. Et la seconde est une écrivain. Il parle là de l'épisode d'Œdipe, un épisode mythologique qui est au fondement de nombre de considérations en psychologie et en psychiatrie. Pourquoi nous lire cet extrait?
Parce que justement, il est mort il n'y a pas longtemps, alors on repense aux gens quand ils meurent. Mais c'est quelqu'un qui a été très important pour plusieurs de mes spectacles, en fait. Je me suis inspiré et aussi des stages, je me suis inspiré beaucoup de ce livre. Et même, j'ai tout un spectacle qui s'appelait « Pour en finir avec Claude Régis », j'imitais, comme j'ai essayé un tout petit peu de faire là, de sa manière de parler. Parce que j'étais allé suivre un séminaire à Sainte-Anne pendant un an et de psychiatrie, comme ça. Alors, j'y comprenais pas grand-chose, mais je captais des choses de temps en temps, des images, quoi, en fait. Et j'étais fasciné par aussi cette manière qu'il avait de parler d'une humilité, mais abyssale, quoi, comme ça, une espèce de... Et voilà, je m'étais servi de cette manière de phraser les choses pour ce one-man show qui n'était pas un one-man show où j'étais seul, c'était un one-man show où il y avait beaucoup de monde autour de moi qui faisait des images, mais disons, c'était moi qui tenais le crachoir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En lisant, je me suis aperçu, il parlait... Enfin, il parle toujours de la même chose, hein, je pense. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand les gens parlent de la même chose, de toute leur vie. Parce que c'est Clément Rosset, que vous aimez beaucoup, qui fait remarquer, qu'on lui fait remarquer souvent qu'il écrit toujours le même livre. Mais il dit, ben, ça prouve au moins que j'ai quand même une idée en tête. Souvent, un sujet en tête, souvent les gens n'en ont même pas un, quoi. Et ben, oui, c'est un peu comme ça. Et cette histoire de chemin qui se fait en marchant, quand il dit bon pied, la voyance qui se fait en marchant, etc., bon pied, bon œil, voilà, un chemin que Deep fait aveugle. Hein. Et ben ça, il parle aussi dans un autre livre que je viens d'acheter d'entretien. Il rappelle ce vers de José María Machado Ruiz, Antonio Machado, qui dit: No hay camino, es caminando que se hace el camino. Mais enfin, ça veut dire: il n'y a pas de chemin, c'est en cheminant que l'on fait son chemin. Puis je crois plus tard dans le poème, il parle d'un chemin sur la mer.
Quelle musique vous voulez mettre après ça?
Je voudrais qu'on écoute une chanson de Leonard Cohen.
If you want a lover, I'll do anything you ask. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, no, you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
La lecture du jour évoquait le psychiatre Jean Houry, disparu récemment. Je vous signale qu'un documentaire sur la clinique Laborde a été diffusé le 10 avril dernier sur France Culture. Vous le retrouverez aisément sur la page internet de surlesdocsfranceculture.fr. Demain, Yves-Noël Genot poursuit à la même heure le déballage de sa bibliothèque et il nous lira cette fois un extrait de l'Ecclésiaste. En attendant, vous avez le son. C'est royal, c'est normal, vous voulez l'image. Vous avez bien raison, voici le Polaroid. ce n'est plus une permission de minuit. C'est un dépassement de la vitesse de la lumière, doublé d'un allumage de toutes les fusées. Leurs habits du dimanche sont vert pelouse maintenant, leurs nœuds papillons attachés à l'envers, le pantasson retroussé jusqu'aux genoux et leurs cheveux tout emmêlés des jeux qu'ils ont inventés pendant des heures. Leurs parents sont sous, flous, beaux aussi, et quelque part au milieu du jardin. Leurs petits frères et leurs petites sœurs dorment du sommeil du juste à l'étage, bercés par la fête, les vapeurs d'alcool et ce petit rien d'air archaïque qui plane sur l'idée de mariage. Ils ont répété ce que disait le maire et après lui tout le monde devant les signes blancs du lac. Ils ont fait semblant de s'échanger des baisers et des alliances dans les recoins de pelouse à l'ombre. Il est tard et sont vaillants. Ils ont mille fois dévalisé le buffet et dans les poches ont gardé des munitions pour plus tard. Ils sont assis en tailleur autour de la piste. Il y a 10 ans, ils n'étaient pas sur Terre, ils n'étaient dans la tête de personne. Il n'existait pas de mini costards pour leurs mini épaules et des baskets rugissantes pour leur taille 32. Mais ils sont là. Et ils ont très envie d'aller danser. Ils font semblant que non, détaillant tous les mouvements des grands, des femmes qui ont ôté leurs chaussures, enviant les cercles formés et les corps qui rebondissent. Ils ont très envie d'y aller. Il y en a bien un, j'espère, qui va les attraper pour les précipiter au centre et célébrer la nuit. Qu'un par un, ces enfants deviennent des ballons ivres de lumière et rouges de joie.
Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were all gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons. Go by. Thank you.
99 dreams I've had, everyone a red balloon. It's all over, I'm standing pretty in this dust that was our city. If I could find one souvenir just to prove the world was here, here it is, a red balloon. And I think of you and let it go.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait de vous faire entendre 99 Red Balloons par Sleeping at Last. Il s'agit d'une reprise du titre 99 Luftballons, initialement interprété par le groupe allemand Nena en 1983, en beaucoup plus rapide et avec option de refrain électrisant. Rappelons que les différents choix de Miss Chanel se retrouvent sur une playlist audible via la plateforme Deezer. La sélection de quelques titres programmés dans cette séquence Polaroid se trouve aussi sur la grande et nouvelle plateforme musicale de Radio France, rf8.fr, où vous trouverez, entre autres 1000 bonnes choses pour vos oreilles et pour vos yeux, le Radio Vinyle que nous consacrions au musicien Rhône. Radio Vinyle étant une plongée dans les réserves de la documentation de Radio France et des centaines de milliers de disques vinyle. La chance.
C'est très facile d'avoir des utilisations dans les clubs.
Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h, passé de 21 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le premier moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot répétition. Comme à notre habitude, nous éclairerons ce mot à la lumière de 5 disciplines jusqu'à vendredi et aujourd'hui, c'est l'histoire. À une époque donnée correspond une expérience du temps, façon d'articuler le passé, le présent et le futur, façon que l'on peut nommer régime d'historicité, nous préciserons. De ce régime dépendent donc différents statuts pour l'histoire. Tantôt, elle est pensée comme pouvant éclairer le présent, tantôt on pense d'elle qu'elle contient une forme de destin, tantôt on lui confère une puissance si forte qu'elle touche à la théologie et organise le monde, tantôt elle est abordée, absorbée par la prégnance du présent et confondue avec la mémoire ou le patrimoine à conserver. Notre rapport au progrès, donc au futur, ou au futur, donc au progrès, modifie la façon d'écrire cette histoire et probablement la place que font les historiens à l'idée de répétition, de ressemblance, de différence dans cette écriture. Qui écrit l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait en écrivant l'histoire? Et sous quel régime d'historicité pouvons-nous dire vivre aujourd'hui? François Hartog, vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de nombreux ouvrages dont « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps » paru à la librairie du XXIe siècle au Seuil. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
1715, 1815, 1415, 1515, 1915, tous les 15, on l'a toujours remarqué, ont été... Alors, ça ne peut pas ne pas faire réfléchir. Mais de là en tirer des conséquences profondes, je crois que c'est plutôt les conséquences qu'on en tire soi-même qui sont intéressantes. C'est si en fonction de cela on modifie un comportement, qu'on en tire une conséquence, mais en soi c'est une coïncidence pure et simple.
François Hartog, celui qui dit coïncidence, c'est Pierre Nora, invité de Jean-Noël Jeannonet dans l'émission Concordance des temps sur France Culture. On est en 1999 et l'émission s'appelle précisément « L'histoire se répète-t-elle ? » Ils réfléchissent ensemble à cette notion, à ce que propose l'émission, à savoir travailler des concordances des temps. Est-ce que l'histoire a toujours été concernée, agitée par l'idée de répétition et l'est-elle encore ?
Oui, je pense que l'histoire a toujours été agitée par cette idée. Parce que le problème est bien d'essayer de nommer quelque chose qui vient de se passer, ou qui est en train de se passer, ou qui s'est passé il y a longtemps, et à ce moment-là, c'est peut-être de le renommer. Et pour nommer, il faut avoir des éléments, des instruments qui vous permettent d'analyser, de rendre compte de qu'est-ce qui a rendu possible cet événement, comment se fait-il que cela soit arrivé, et dès lors que vous commencez à mettre en marche simplement le langage pour dire, vous êtes, comme le langage lui-même fait appel à des structures de répétition, vous êtes amené à faire intervenir des éléments de répétition, ce qui ne signifie en aucune manière que l'histoire se répète. C'est un tout autre problème.
Savoir que presque nous avons besoin de convoquer quelque chose pour le comparer, s'en démarquer, travailler des différences, mais c'est simplement qu'il faut pouvoir avoir un point d'appui.
Oui, sinon, on ne voit rien. Il y a une très belle phrase de l'anthropologue américain Franz Boas qui dit « L'œil est l'organe de la tradition ». Ce qui veut dire que...
L'œil est l'organe de la tradition,
ce qui est une belle formule. Ce qui veut dire que si vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu...
Vous cherchez dans l'histoire.
Vous ne savez pas ce que c'est. Bon, et c'est justement parce que l'œil est l'organe de la tradition que vous pouvez dire « mais ça ressemble à ça, ça me fait penser à ça ». Et à partir de ce moment-là, se met en marche un processus d'intelligibilité, tout simplement. De ce que vous voyez, de ce qui se passe. Alors, après, encore une fois, on peut faire intervenir les questions des modalités du rapport au temps. Puisque si vous considérez que le passé est non le lieu, l'espace qui vous aide à comprendre ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire vous commencez par regarder, vous tournez vers le passé et vous dites là, il y a des exemples. Ça a été ce grand modèle qu'on appelle l'histoire maîtresse de vie, hein, qui s'est installé entre l'Antiquité et qui a eu cours pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, pas de manière continue, mais globalement si. Bon, là, vous regardez vers le passé et vous y trouvez des leçons, des exemples. Et là, le rapport que vous entretenez avec ce passé est un rapport d'imitation. Ça ne veut pas dire de répétition. Ça ne veut pas dire de reproduction. Ça veut dire simplement que, encore une fois, pour comprendre, vous commencez par aller chercher du côté du passé. Et ça, c'est ce grand rapport au passé que moi j'appelle l'ancien régime d'historicité. Il s'est effondré. Il n'a plus été opérationnel, il n'a plus été opératoire entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1830-1840 du XIXe. Et on est passé, à partir de ce moment-là, dans un autre rapport au temps, une autre expérience du temps, où c'était, au contraire, le futur qui se trouvait investi de la force, de la capacité de rendre intelligible ce qui était en train de se passer. La lumière venait du futur et non plus du passé. Et alors, à partir de ce moment-là, évidemment, tout change. Puisque vous êtes dans un moment, dans une époque, où vous êtes convaincu que l'histoire ne se répète pas, que l'événement est unique.
Non seulement convaincu, mais désireux qu'elle ne se répète pas.
Oui, enfin, ça va de soi. Ça devient de l'ordre de l'évidence. L'événement est unique. Tout l'historisme, enfin tout ce qu'on a appelé l'historisme, est au fond fondé sur ce postulat. L'événement est unique. Et donc, ce que vous cherchez à comprendre, c'est les causes. Donc vous vous inscrivez dans une perspective qui est celle de la recherche des causes. La causalité qui doit vous permettre de comprendre ce qui a fait que cet événement unique s'est effectivement produit. Et vous êtes, dès lors que vous réfléchissez en termes de causalité, vous avez été amené à chercher aussi des lois. Essayer d'avoir des lois, et c'est toute cette thématique très présente au cours du 19e et encore une partie du 20e siècle, les lois de l'histoire. Y a-t-il des lois de l'histoire? Et si l'histoire veut être une science, elle doit arriver à formuler les lois de l'histoire. Et le marxisme a été la science qui a voulu justement faire de l'histoire une science, dire que l'histoire était une science, et affirmer qu'il avait trouvé les lois de l'histoire.
Mais précisément, puisqu'on parle du marxisme, il est question de la répétition. C'est-à-dire que dès lors qu'on imagine de la loi, on imagine du système, on imagine quelque chose qui est voué à être répété. On fait une loi dans la mesure où on pense pouvoir appliquer cette loi à un schéma qui se répète.
Oui, mais pour un temps. C'est-à-dire que cela, ça vaut pour le temps qui nous sépare du moment où nous en serons véritablement dans une société communiste. Ou alors là, c'est la fin de l'histoire, précisément. Mais pour tout ce temps intermédiaire, oui, il faut avoir une science rigoureuse de l'histoire pour savoir comment agir, pour pouvoir être, soit faire avancer la révolution, c'est la position de certains des révolutionnaires, soit être à même de saisir la révolution qui vient. C'est-à-dire, étant entendu que, au fond, vous n'avez pas de prise sur cette révolution, c'est l'état des forces productives qui devra amener, etc. Bon, voilà. Mais ce rapport à l'histoire, à la science et au futur est complètement déterminé par cette vision qui doit déboucher sur une société qui sortira enfin de l'histoire.
Et un usage scindé totalement en deux, à savoir on utilise quelque chose comme une science très très fort en lui faisant dire des choses de l'ordre de la loi, tout en disant nous abandonnerons complètement cet outil-là qui n'aura plus lieu d'être dans la société entre guillemets d'après.
Oui. Enfin, les textes sur la société d'après, vous savez, sont peu nombreux, peu explicites, et encore plus chez Marx. Mais Marx lui-même, quand il analyse les mouvements du XIXe siècle, à commencer par la Révolution française, est très sensible à cet aspect, justement, ancien régime, si je puis dire, ancien régime d'historicité de ces révolutions, qui faisait appel à des exemples du passé pour essayer de se donner la force et la capacité et les capacités de comprendre ce qu'ils étaient en train de, ce que les révolutionnaires, les acteurs étaient en train de faire. Ce sont les textes très intéressants du début du 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, bon, où vous avez cette fameuse reprise de la formule de Hegel sur l'histoire, se produit d'abord sous forme de tragédie et puis elle se répète en farce.
Elle se répète deux fois et il a oublié de préciser en tragédie puis en farce.
Voilà. Mais ça, c'est justement un mauvais usage du rapport au temps. C'est une mauvaise compréhension de la révolution. Et il dit bien que les révolutions de l'avenir, elles, laisseront les morts enterrer les morts et n'auront plus rien à voir avec cette espèce de convocation du passé qui a eu son importance, puisque c'est ce qui a donné aux révolutionnaires, aux jacobins, qui se prenaient pour des romains, ça leur a donné la force d'entreprendre leur action. Donc c'est pas seulement négatif. Bon, quand Louis-Napoléon mime son oncle, là, on est purement dans la farce grotesque.
Puisque vous le citez, et puisque Pierre Nora utilisait le mot de coïncidence. Il y a ce Ulysse se faisant raconter son exploit de la prise de Troie par Laède, qui cherche à, dites-vous, coïncider avec un être qu'il a été, mais qu'il ne retrouve pas complètement. Comment lire ce moment mythologique sous la plume d'Homère ?
Alors là, ça nous emmène évidemment dans un univers tout autre, mais qui est une scène, justement cette scène sur laquelle j'ai essayé d'écrire, me paraît avoir quelque chose de fondateur. Je l'ai appelé une espèce de scène primitive de l'histoire, puisque Ulysse se fait raconter par le barde des Phéaciens la prise de Troie. C'est-à-dire qu'il se fait raconter ce qu'il a fait lui-même. Bon. Et quand le barde, qui est évidemment un poète inspiré, chante ce qui s'est passé avec une précision extraordinaire, donc comme s'il était un historien. D'ailleurs, Ulysse lui dit, mais c'est pas possible, tu y étais. Bon. Et évidemment, il sait très bien qu'il n'y était pas, bon, puisque lui seul était là. Et sa réaction face à cela, c'est de pleurer. Et ces pleurs ont été beaucoup scrutés, bien entendu, comme tout ce qui concerne Homère et Ulysse en particulier. Et il me semble que ces pleurs sont justement parce que sont l'expression des mots qu'il n'a pas.
C'est-à-dire qu'il n'est... Et qu'à l'autre, et qu'à le poète.
Oui, mais lui, il ne s'en rend même pas compte. Hein, parce qu'il est inspiré, il fait son boulot. C'est tout, on lui a demandé de venir, il chante.
Il dit l'histoire.
Et oui, il est dans le banquet, on lui dit, voilà, tu vas nous chanter ça, il chante ça, bon, très bien. Ça, il fait son travail. Mais Ulysse ne sait pas comment dire, justement, cette expérience de non-coïncidence de lui-même avec lui-même. C'est-à-dire, celui qu'il était il y a 10 ans, au moment de la prise de Troie, et celui qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, il n'a pas l'expérience du passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il a mangé la veille. Il n'a pas l'expérience du passé, il n'a pas le concept de passé, au fond, pour rendre compte. Et par conséquent, il ne peut pas renouer la continuité entre celui qu'il était et celui qu'il est aujourd'hui. Il est dans la discordance complète.
Il est dans la discordance et il est dans une non-répétition, mais c'est une non-répétition dont il n'a même pas conscience. Finalement, l'enjeu qui est décrit, enfin l'un des enjeux qui est décrit par cette scène, serait de pouvoir avoir l'expérience du passé, pouvoir avoir une forme d'historicité, finalement, cette profondeur de champ, mais qui sortirait de la répétition, puisque Ulysse, ce qu'il n'arrive pas à mettre en mots, n'est pas celui d'être autre, c'est celui d'avoir été autre.
Oui, et de reconnaître celui qu'il était dans celui qu'il est aujourd'hui. De réunir les deux et de savoir qu'il y a, que c'est ça la condition humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de véritable coïncidence de soi-même avec soi-même dans le temps. Et ça, voilà, il ne sait pas le dire, il ne sait pas le penser, et évidemment, il y a de quoi être troublé.
Est-ce qu'on peut faire, comme c'est très tentant, le parallèle avec le collectif ? Là, on est à une échelle extrêmement individuelle, à savoir, on n'arrive pas à se penser exactement pareil en tant que société, je ne sais pas, en rapport avec des temps de guerre, avec un passé, et en même temps, on n'arrive pas non plus complètement à se penser discordant et différent. Est-ce que c'est un parallèle qui fonctionne ?
On doit...
Et qui nous ferait pleurer ?
Probablement, d'ailleurs, ça nous fait pleurer. C'est un parallèle que l'on peut effectivement essayer de développer, qui c'est une idée intéressante, dans justement dans les sociétés qui ont connu, comme nos sociétés du XXe siècle, des drames terribles, des moments de traumatisme profond, et qui ne savent pas comment renouer le fil.
Dire ça, au même titre qu'Ulysse ne sait pas dire celui qu'il a été en guerre au moment de la prise de Troie, savons-nous dire exactement ce que nous avons été collectivement dans des moments de drame ?
Nous le savons mal, et il y a à cela de multiples raisons. Il y faut du temps. Et il ne faut pas croire que cela puisse se faire du jour au lendemain. Mais ça, c'est la tendance d'aujourd'hui. On considère que le travail de deuil commence 5 minutes après une catastrophe et que le 24 heures après, ça doit être fini puisqu'il faut passer à autre chose. Bon. Alors ça, c'est une vision caricaturale de ce rapport que l'on peut entretenir avec ce qui a eu lieu. Il y faut du temps et il y faut aussi, je crois, une certaine, je dirais presque un certain silence. Je dirais pas cette espèce de tintamarre que l'on a parfois tendance à percevoir aujourd'hui.
Il est clair que l'histoire, selon Hérodote ou selon Tite-Live, et l'histoire selon Michelet, Marc Bloch Le Goff, ont des relations dans la mesure où il y a toujours un rapport avec un passé. Et fondamentalement, un lieu où une société, à travers un certain savoir, élabore sa relation avec ses morts et avec sa propre limite. L'histoire n'est pas le seul emplacement parce que, pour une part, la religion a traité cette question. Et fondamentalement, le rapport avec les morts, avec les esprits, la relation d'imbrication entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, est aussi quelque chose que gère fondamentalement n'importe quelle religion. On peut dire que pour une part, l'historiographie a pris en charge un certain nombre des questions qui, dans les sociétés majoritairement religieuses, étaient le fait d'une religion. Et que l'histoire a pris ce rôle global, englobant, par exemple au XIXe siècle, dans la mesure même où cette société cessait d'être, scientifiquement parlant, religieuse.
François Hartog, on entend ici la voix de Michel de Certeau. On est en 1975, une émission qui s'appelait « La langue et le pouvoir » et un entretien mené par Jean-Marie Benoît. On s'est arrêté tout à l'heure en essayant de décrire les différents régimes et les différents usages finalement de l'histoire et des rapports entre notre présent et notre histoire et le futur. On s'est arrêté au début du XXe siècle. Michel de Certeau parle de la façon dont l'histoire et l'historiographie a pris en charge quelque chose qui a été pendant très longtemps pris en charge, entre guillemets, par le religieux, à savoir laisser les morts être les morts ou ne pas les laisser morts être morts. Comment se situe-t-on justement au tournant de ce XXe siècle et comment évoluent ce que vous appelez ces régimes d'historicité ?
Oui, là, Michel de Certeau repart de Michelet. En réalité, c'est la grande préface de Michelet à son Histoire de France, où l'historien est présenté comme celui qui est le visiteur des morts. celui qui passe et repasse le fleuve des morts, il a plusieurs images pour évoquer ça, et qui opère ainsi son opération de résurrection, bon. Qui est une résurrection tout en sachant bien que les morts sont des morts, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les faire véritablement revivre. Il ne se prend pas pour le jugement dernier, pas complètement en tout cas. Bon, voilà. Mais ce rapport comme ça, de l'historien aux morts, il est revenu de manière très importante dans l'historiographie contemporaine, justement avec quelqu'un comme Michel de Certeau, et aussi avec Ricoeur, qui a, reprenant Michel de Certeau, qui reprenait lui-même Michelet, insisté sur cette dimension du travail de l'historien comme, alors ça c'est l'autre présentation, enfin c'est l'autre volet de cet historien visiteur des morts, c'est la dette. C'est-à-dire la dette que l'on a à l'égard de ces morts, et c'est un élément très fort de toute, non seulement de l'historiographie contemporaine, mais de toute une part des politiques mémorielles contemporaines.
Il y a aussi ça a très à voir avec la répétition. Quand on est question de la dette, on est quand même question de quelque chose qui se reproduit et face auquel on est devant, au deux sens du terme, à savoir se tenir devant et devoir quelque chose.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Et la mémoire, telle que c'est, les politiques mémorielles telles qu'elles sont mises en place un peu partout, et telles qu'on vient de le voir encore tout récemment sur les plages de Normandie, c'était bien cette thématique de la dette qui était présente, la dette à l'égard des vétérans qu'on avait mis au premier rang, qui pour la dernière fois se trouvaient là, et qui étaient eux-mêmes les témoins, c'est-à-dire ceux qui était là en lieu et place de ceux qui n'y étaient pas parce que justement ils étaient morts. Donc ils avaient cette fonction de témoins, presque des témoins de substitution. Ils étaient eux-mêmes des témoins parce qu'ils avaient été là, présents effectivement, et ils étaient là pour tous ceux qui ne pouvaient pas l'être.
Parce qu'ils avaient été là, précisément. Oui, ils ne pouvaient pas être là à la répétition, à la commémoration, parce que précisément ils avaient été là et qu'ils sont cette histoire, d'une certaine manière.
Oui,
mais
plus
là pour le dire.
Non. Voilà. Et nous vivons justement cette répétition des commémorations sur un rythme extrêmement accéléré, puisque vous avez pu remarquer qu'on est passé du 6 juin au... Presque immédiatement, on revient à la guerre de 14, qui est là, qui nous... au centenaire de la guerre de 14.
Qui tire le drap pour...
Bon, donc on va d'une commémoration à l'autre.
Heureux lapsus quand même que vous faites, quand vous dites communication, quand vous allez dire communication au lieu de dire commémoration, ça interroge tout de même cet acte que l'on fait.
Les deux sont imbriqués, et bien évidemment, puisque c'est devenu un acte rituel du calendrier politique.
Et qu'est-ce qu'on fait ? Je commençais l'entretien en posant ces questions qui sont évidemment trop grandes pour être posées au début d'une émission qui ne va durer que 40 minutes. Cependant, tout de même, qu'est-ce qu'on fait en écrivant une histoire et qu'est-ce qu'on fait en faisant cette répétition de commémoration ? Est-on en train d'écrire l'histoire ou fait-on autre chose ?
Alors, on croit qu'on est en train d'écrire l'histoire, pour une part. On pense aussi que l'on est dans ce monde dominé par la mémoire, enfin pas on pense, on se trouve dans ce monde dominé par la mémoire, et ce qui signifie quelque chose, signifie beaucoup de choses, mais en particulier ceci, la mémoire, elle fonctionne entre le passé et le présent. Cette mémoire sociale, cette mémoire collective, ou même la mémoire individuelle, qui elle-même n'est jamais purement individuelle, cette mémoire, elle va chercher des moments du passé, souvent douloureux, pour les convoquer, les invoquer dans le présent. Et éventuellement les remettre en scène, les répéter, les revivre, les rejouer. Il y a toute une thématique là de répétition, précisément le reenactment qui est très présent par exemple aux États-Unis dans les questions des drames qui sont survenus au moment des luttes contre la discrimination avec les Noirs américains. Enfin, donc on est là très explicitement dans des mises en scène, des mises en jeu qui se fondent sur cet aspect de répétition. Mais la grande différence, si vous voulez, qui me semble émerger de ce rapport-là à la mémoire et donc au temps, c'est que la dimension du futur n'est pas du tout présente. Ou alors, parce que, encore une fois, la mémoire, elle va du passé vers le présent, elle n'ouvre pas sur le futur. Oui, alors, à ce moment-là, on use de cette vieille... figure qui est celle de la leçon, qui est justement étayée au modèle que j'ai évoqué d'un mot tout à l'heure.
L'ancien
régime d'historicité, l'histoire maîtresse de vie, celle qui était fournisseuse de leçons. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans ce type de rapport au passé, et où vous n'êtes plus non plus dans celui qui était marqué par Michelet, par ce que vous évoquiez, le progrès, par ce que j'appelle moi le régime moderne d'historicité, le temps progressif, la lumière vient du futur, il faut aller vers le futur le plus vite possible. À partir du moment où vous n'avez plus cette ouverture et vous n'avez plus cette histoire comme marche vers le futur, alors la mémoire, elle vous inscrit dans ce moment présent et elle fonctionne au présent, pour le présent et au présent.
Les difficultés que rencontre l'histoire sont déjà présentes de façon tout à fait spécifique avec la mémoire. Et donc, commencer par la mémoire, cela pouvait être mon apport original, non seulement dans la discussion épistémologique, mais par rapport à moi-même. Je précise, ce que la mémoire apporte comme problématique irréductible, c'est un rapport au passé par l'absence. Et cette question me tourmente de bout en bout. C'est comment peut-on représenter l'absent qui a été autrefois, mais qui n'est plus. Alors c'est ce rapport profond du caractère passé du passé, à savoir d'avoir été, mais de n'être plus, et donc de n'être atteint que par conjecture dans la représentation. D'où l'importance du mot « représentation » du bout en bout. Or, avec la question de la représentation, vient la question de la vérité. Comment peut-il y avoir vérité de ce qui n'est pas présent, de ce qui n'est plus présent, mais de ce qui, néanmoins, ne doit jamais être confondu avec la fiction ? Parce que la fiction, elle aussi, a rapport avec l'absence. Si bien qu'en fait, c'est comme un débat entre deux absences, une absence d'un irréel qui jamais ne fut, je pense par exemple à un personnage de roman, il est dans l'imaginaire et nulle part ailleurs. Tandis que si les personnages historiques ou les événements historiques ou les institutions historiques ont une prétention à être historiques et pas fictives, c'est d'avoir ce rapport à travers l'absence à l'avoir été.
François Hartog, d'une certaine manière, Paul Ricoeur prend votre suite en parlant de la mémoire. On est ici le 22 janvier 2001, il est au micro de Roger Chartier dans l'émission Les lundis de l'histoire et il évoque finalement ces deux fonctionnements de rapport à l'absence que sont mémoire et histoire. Il évoque, et c'est ici que c'est intéressant pour revenir aussi sur votre propre développement de pensée, le régime entre vérité et fiction. Et vous dites, tout en disant tout ce besoin d'histoire, tout ce statut de l'histoire, que finalement la fiction, par la littérature ou par la représentation artistique, est presque celle qui peut au plus saisir le présent sur le vif, saisir le surgissement du présent. En quoi est-ce que fiction et histoire peuvent se compléter dans l'aide qu'ils nous apportent à saisir ce présent ?
Bon, si l'on admet qu'en effet l'histoire fondamentalement s'occupe du présent, que le passé n'est qu'un moyen, qu'un lieu de passage, qu'un point de passage pour essayer de saisir le présent, que la littérature, du moins une certaine littérature ou une certaine conception de la littérature en fait autant, on a là deux voies qui ne sont pas évidemment les mêmes, mais qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Et en ce qui concerne la littérature, il me semble que la puissance qu'a la littérature, ou la supériorité qu'a la littérature, si on veut employer ce vocabulaire, mais il n'est pas adéquat, c'est pas un problème de ce qui est supérieur, qui est inférieur, ce sont deux démarches parallèles. La littérature permet de se saisir de ce qui encore n'a pas été dit, puisque qu'est-ce que c'est qu'écrire, sinon essayer de dire ce qui n'a pas été dit. Bon. Donc elle peut s'en saisir, un écrivain peut s'en saisir, essayer de s'en saisir, parce qu'il peut faire comme ça ce bond immédiat. Bon. L'historien, plus généralement celui qui fait des sciences sociales, que ce soit un sociologue ou un géographe ou qui vous voudrait, lui, il est obligé d'avoir une démarche réflexive. C'est-à-dire qu'il vient forcément un peu après. Parce qu'il a des protocoles à respecter. Puisque précisément, il ne peut pas simplement se lancer comme ça, sans filer.
Parce qu'il a à voir avec la vérité, pour reprendre la question de Ulrika.
Oui, parce qu'il a à voir avec la vérité, parce qu'il a à voir avec la preuve. On lui demande les preuves de ce qu'il avance.
Ce qu'on ne demande pas à la littérature.
Ce qu'on ne demande évidemment pas à la littérature. Et ces preuves, elles doivent pouvoir être répétables, précisément, par d'autres. Alors, ensuite, les interprétations, elles varient. Il n'y a pas une interprétation. Mais il y a des faits qui font que vous ne pouvez... Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Les sources, comme disait l'historien Koselleck, les sources ne vous diront jamais ce qu'il faut dire, mais elles ont un droit de veto.
Sur ce que l'on peut plus dire dès lors que l'historien a dit une chose devenue historique, à savoir dès lors que l'on s'entend collectivement par la voix de l'historien à quelque chose qui n'est plus négociable.
Voilà, assurément. Assurément.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui décrire, puisque vous avez parlé du bond immédiat que peut faire la littérature, je parlais en tout début de d'émission de ce que Kafka appelle le saut, l'acte d'écrire comme un saut en dehors de la rangée des assassins. Est-ce qu'on est dans un temps aujourd'hui du présent qui travaille l'immédiateté de cette manière-là? Parce que vous parlez aussi d'une immédiateté un peu moins créatrice, un peu moins créative, un peu moins ambitieuse.
Ça, c'est ce que j'appelle le présentisme. C'est-à-dire un présent qui est comme ça, dans lequel on se trouve englué. Mais il y a des gens de toutes sortes qui essayent de partir de ce présent pour essayer d'y échapper, pour essayer d'en sortir. Bon, alors c'est justement... Être un guetteur du présent, ce serait au fond la définition que j'aimerais donner.
De l'historien.
De l'historien.
Ou de tout être humain avisé.
Un guetteur du présent pour échapper aux pesanteurs du présentisme.
Et non pas pour échapper à l'histoire, puisque tout à l'heure, on parlait de voix comme ça. Vous disiez littérature et histoire sont finalement deux voix pour aller vers une même chose, deux voix qui peuvent être parallèles et complémentaires. Quand on entend voix, on parlait la semaine dernière du but, on entend quelque chose de l'ordre de l'objectif. Est-ce qu'il y aurait un objectif, entre guillemets, d'émancipation? Et ce serait émancipation de quoi? Est-ce qu'on voudrait... par la possibilité de capter le présent, s'émanciper de la répétition de l'histoire?
Je pense qu'on voudrait au moins avoir une perspective critique sur ce présent.
On n'élucide pas l'énigme, mais on la pose d'une manière précise. Voilà qui est passé bien vite, 16h53 déjà, et l'heure de l'arrivée d'un poème. Cette semaine, nous écoutons les poèmes de Valérie Rouzeau, poétesse française qui se consacre également à la traduction d'auteurs anglophones, Sylvia Plath, Ted Hughes et William Carlos Williams, pour ne citer qu'eux. Le recueil que nous feuilletons cette semaine s'appelle « Pas revoir ». Elle y évoque son père mort. Il était publié en 1999 et avait été remarqué par un large public. Aujourd'hui, deux poèmes et ils nous sont lus par la comédienne Flora Brunier. On l'écoute.
On trouvait de quoi rire tous deux quand pas les mots. Mon père et moi d'un rien, la coiffure d'une spicrine, le chant d'un âne au loin. Ensemble, autour de la table ou sous le ciel changeant, près des portes béates. Longtemps après que les spicrines ont disparu et les ânes qui chantent de bon cœur. Ça fait deux faciles, mon père et moi, faciles. Je compte sur lui pour tomber d'accord avec moi. Des nuages nous passent au-dessus, des crapauds chantent au loin leur chant bien plus beau qu'eux. Mon père ne dit mot. Nous sommes tous les deux, mais je suis la seule à avoir le vent dans les cheveux, et lui est le seul à ne pas ouvrir les yeux. Et je lui montre du doigt d'où vient le chant gonflé vachement des crapauds, mais il connaît la fable. Les nuages nous passent au-dessus le temps, à moi surtout qui les compte tant. Mon père ne dit rien. Nous sommes différents, mon père et moi. Là, sommes deux en plan.
Ça y est, nous y sommes arrivés, on n'arrivait pas à revenir. François Hartog, c'est grâce à vous qu'on entend cette sonate en la mineur, aussi appelée arpeggion, de Schubert dans une version pour flûte traversière. Vous aimez aussi, on peut le dire, la version pour violoncelle. Merci beaucoup d'avoir ouvert pour nous cette semaine autour de la répétition. Signalons Régime d'historicité, présentisme et expérience du présent, paru collection Librairie du XXIe siècle au Seuil. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Expérience du temps.
Ah ouais, c'est un lapsus intéressant. Merci beaucoup pour écouter cette émission. Franceculture.fr fonctionne parfaitement et ne fait pas de lapsus, normalement. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier et à celui du poème du jour du Polaroid et de la bibliothèque. Et nous mettrons la bibliographie totale de François Hartog pour nous écrire un formulaire. Fonctionne parfaitement. Merci pour vos petits mots, petits et grands. Aux manettes aujourd'hui, c'était Emmanuel Morse d'un camp. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec-de-Lièvre qui pensent et préparent cette émission. Une émission réalisée par Nice Anne-Laure Chanel. Nous serons là demain, même heure, même signal et dans un instant, le 5 à 7.